Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis complètement ébloui par le soleil qui reflète là. C'est magnifique. En plein décembre, comme ça, un beau ciel bleu. Vous allez tous bien?
Oui.
Merci Seigneur, moi aussi ça va. Gloire à Dieu, c'est bon. Nous avons chanté et nous saluons tous ceux qui nous rejoignent maintenant sur le net. Et nous allons étudier la parole de Dieu ce matin pour nous faire du bien, pour nous fortifier dans notre foi. Amen. Je vous propose de lire rien du tout. Je n'ai pas de verset à lire ce matin. On en lira après, au cours de la prédication. Prions le Seigneur. Merci Jésus de ce que tu nous aimes et de ce que tu nous le prouves en te manifestant, en nous donnant de bons signes et en mettant les personnes qu'il faut sur notre chemin, sur notre route. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour toutes tes gentilles attentions. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Merci, Jésus, pour tous ceux qui nous aiment et qui nous bénissent et qui nous font du bien. Je te prie, Seigneur, de les encourager eux aussi. Merci, Seigneur. Amen.
Amen.
Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, mes frères et sœurs, on n'est pas rien du tout. Jésus n'est pas mort pour des rien du tout. Nous sommes ce que la nature entière attend de voir se manifester. Ça, c'est ce que la Bible dit. Votre Bible, comme ma Bible, dit cela. Que la nature entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes les nouvelles créations de Dieu. Dieu créa le monde, se reposa le septième jour, et puis depuis, il n'a jamais plus rien créé. Et puis voilà, depuis Jésus, il a créé quelque chose de nouveau, nous. C'est des gens qui sont non seulement loin, mais remplis, baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Des gens qui sont en train de devenir son épouse. C'est extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans ces derniers temps, nous sommes en train d'apprendre à manifester de mieux en mieux le Saint-Esprit qui est en nous. C'est un apprentissage. Nous allons devenir des esprits. Bientôt, on va être débarrassé de notre corps de chair. Et ça, c'est tant mieux. Parce qu'on est limité, coincé là-dedans. Et nous serons des êtres d'esprit avec des corps d'esprit. Et semblable à Dieu, ça sera magnifique. La Sainte Bible parle de corps glorieux. Hein? Nous aurons des corps glorieux. Que nous allons bientôt revêtir. Ça sera bien, hein? Amen. Ah ben dis donc, hein? Oui, ça sera bien. Pour le moment, nous nous voilons, nous sommes voilés dans ces corps d'humiliation, ces corps limités. Alors il y en a qui sont plus ou moins en santé, il y en a qui sont plus ou moins beaux, il y en a qui sont pas très gâtés par la nature, ils sont moches. Mais bon. Voilà, un jour, tout ça, ça va changer, on sera tous magnifiques et tous en pleine santé. Vous le croyez?
Oui.
Moi aussi, je crois ça. Donc, c'est une parenthèse de notre vie, de notre existence. On vit ce moment-là. Bon, ben voilà, on le vit, on fait le mieux qu'on peut, et puis voilà. Hein? Avec l'aide du Seigneur. Faut pas trop se plaindre parce que on n'a pas le temps pour se plaindre. Ce qu'il faut, c'est prendre notre temps pour progresser. Le temps vient aussi où nous serons complètement semblables à Jésus. Ça aussi, c'est la Bible qui le dit. Nous allons devenir ce que nous croyons que nous allons devenir. Je me rappelle toujours un pasteur qui disait vous croyez qu'il y a des vertus dans la pauvreté, ben vous, au ciel, ben, quand vous verrez qu'il y a des chemins d'or, ben vous marcherez à côté, parce que vous serez pas habitué à marcher sur l'or, vous marcherez à côté dans les gravats, dans les machins. Il me faisait rigoler ce pasteur. Mais c'est vrai que nous sommes en train d'apprendre à vivre d'une façon spirituelle, parce que bientôt nous ne serons que spirituels. Donc il faut que... Et puis il nous reste plus beaucoup de temps, parce que Jésus revient bientôt. Bon, il ne va pas revenir le... Je crois que la dernière date que l'autre il a donnée, c'est le 20 janvier, je crois. Je ne sais plus. Il a donné déjà cette date, il s'est chaque fois gouré. Je ne me rappelle plus quelle nouvelle date il a donnée, mais enfin, bon, il se gourre encore. Mais Jésus revient bientôt, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il revient bientôt. Et on est en train de se préparer à vivre d'une façon spirituelle. Alors, ce que nous croyons est écrit avec des mots dans la Bible, mais comme je vous le disais dernièrement, les mots, eh bien, ils voilent aussi la réalité. Ils disent pas vraiment exactement ce qu'est la vraie réalité. Alors, déjà, nous expérimentons la puissance miracle, mais alors, nous serons des miracles. Pour le moment, nous avons des miracles dans notre vie, mais nous serons des miracles. Nous serons des miracles pourquoi ? Nous serons des miracles pour les habitants des nouvelles terres que Dieu va créer. C'est nous qui serons les miracles de ces gens-là. Et ça va être extraordinaire de vivre ces choses nouvelles que Dieu est en train de préparer. Les apôtres, et l'apôtre Paul en particulier, nous a appris que notre pensée a un pouvoir miraculeux. Vous lisez ça dans Éphésiens 3:20, que Dieu va au-delà de ce que nous demandons ou pensons, dans l'autre version, imaginons. Et on a cru que ce qu'il a écrit là était inspiré par le Saint-Esprit. Donc si c'est inspiré par le Saint-Esprit, nous devons faire attention à ce que ça signifie et puis commencer à prendre au sérieux le pouvoir de notre pensée. Oui, Dieu va au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Mais ce au-delà, il est encore limité parce que nous vivons dans un monde en trois dimensions avec en plus le temps. Alors de toute façon, c'est limité. De toute façon, c'est limité. Mais ce qui fait que des fois, on est déçu un peu, même si Dieu va au-delà de ce que nous demandons et pensons. Parce qu'on sent en nous-mêmes ce Saint-Esprit qui est illimité. Et on est quand même dans ce corps d'humiliation. C'est pas simplement parce qu'il est moche ou parce qu'il est malade, mais c'est parce qu'il nous limite. C'est ça qui fait que nous nous sentons humiliés. Quelquefois, aussi, on se blesse dans l'exercice de notre foi. Mais on a été averti. On était averti. Les textes sacrés que nous chérissons nous ont bien avertis sur cela. Il y a un prix à payer pour une vie de puissance spirituelle. Je vous recommande d'aller sur notre site. Il y a un livre qui s'appelle « Le prix à payer pour un ministère de puissance ». Alors, oui, ceux qui prient pour avoir un ministère de puissance, c'est très bien, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout. Comme je disais un jour dans une prédication, il n'y a pas de repas gratuit. De toute façon, il y a quelqu'un qui paye. Alors c'est vrai que Jésus a payé pour notre justification, pour le pardon de nos péchés, mais nous avons nous aussi notre part à payer pour manifester, n'est-ce pas, toutes ces choses qui sont des choses de l'esprit. Et ça coûte quelque chose. Alors si vous comprenez pas, allez lire ce livre, un prix à payer pour un ministère de puissance. Il y en a qui ont lu ça et ont dit je préfère pas payer le prix, je préfère rester assis tranquille dans l'église, parce que voilà, Dieu est exigeant, on s'amuse pas avec les choses des choses de l'esprit, avec les choses de Dieu, voilà. Mais nous savons aussi par ces écrits plusieurs fois millénaires que nous avons, les Saintes Écritures, que pour chaque défaite apparente, je dis bien apparente, il apparaît que des fois il y a des échecs, mais c'est une apparence, parce qu'en réalité, pour chaque échec apparent, il y a deux conquêtes qui s'ajoutent à notre actif. Nous avons appris quelque chose et nous savons comment faire maintenant. C'est deux conquêtes qui s'ajoutent. Donc c'est toujours tout est bon, et ce qu'il faut, c'est avoir le bon regard. On cite toujours ce petit proverbe, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et l'autre jour, je lisais quelque chose au sujet du verre à moitié vide. Qu'est-ce qu'il y a à côté du verre à moitié vide ? Il y a un mec qui est plein. Ouais, elle est bonne, hein. nous devons être positifs. Notre foi, elle est positive. Les gens disent, Michel, tu prêches à penser positif, c'est du New Age. C'est le New Age qui nous copie, c'est pas nous qui copions le New Age. Allons, réfléchissez un peu. Je sais bien que dans les milieux chrétiens, il n'y a pas beaucoup de sages et intelligents selon le monde. Je sais bien, mais faites un effort quand même. Hein. Tous ceux qui croient le savent. D'abord, parce qu'ils l'ont lu, dans les Écritures. Ensuite, parce qu'ils ont placé leur foi dans ce qu'ils ont lu, ils ont agi en conséquence, alors ils ont expérimenté le miraculeux. Dans la communauté, je vous ai appris à manifester le miraculeux. Je vous ai montré, voilà, ça c'est des miracles qui sont plus faciles à faire que ceux-là. Il faut commencer par faire des petits miracles. Ça c'est plus simple que ça et ça et ça et ça. Et je vous ai appris, il y a des techniques parce que Dieu est un Dieu d'ordre et quand on commence à rentrer dans le monde de l'esprit, alors on apprend comment le Saint-Esprit agit au travers des capacités personnelles qu'il donne. Alors, c'est pas parce que vous avez appris à faire un miracle que ça y est, vous avez gagné tout, hein. Et que vous pouvez dire, ça y est, ma formation est finie, je peux y aller, j'ai plus besoin des serviteurs de Dieu, je suis moi-même un serviteur de Dieu, d'ailleurs la preuve c'est que j'arrive à rallonger les jambes ou je sais pas quoi. C'est un début, c'est toute la vie qu'on apprend, Et nous expérimentons le miraculeux, il faut apprendre à le manifester, et puis voilà. Et le miraculeux, eh bien, il faut savoir que ça fait peur aux incrédules. Autrefois, les incrédules, ils brûlaient les faiseurs de miracles. Ils appelaient ça les sorciers, les sorcières. Il y avait des gens mauvais dans les faiseurs de, entre guillemets, miracles, c'est vrai. Mais il y avait aussi beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été massacrés parce qu'ils parlaient en langue, parce qu'ils guérissaient les malades et les abrutis de religieux de l'époque, qui étaient des incrédules, eh bien, ils les brûlaient, les mettaient sur le bûcher. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, ceux qui font des miracles, on les méprise et on les rejette. C'est, voilà, c'est comme ça. Moi, j'oserais jamais, on m'a parlé de T.L. Osborne, un homme que Dieu écoute, un homme à qui Dieu répond quand il prie, je vais jamais oser dire quoi que ce soit, ou penser quoi que ce soit, ou au sujet de cet homme, mais les incrédules ont aucune vergogne, ils vont jusqu'à critiquer la forme de sa moustache, ceci et cela, ils ont aucun respect, rien du tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Nous, faut pas qu'on soit comme ça, faut qu'on soit respectueux des choses et des pouvoirs que Dieu donne. Nous savons que la nature entière attend la manifestation des fils et des filles de Dieu que nous sommes. La nature, mais pas les humains. Les humains, c'est vraiment tout, tout. C'est vraiment incroyable. C'est quand même incroyable. Les humains, ils n'attendent pas forcément ça. Quand ils voient ça, plus ils voient se manifester la puissance de Dieu, plus ils ont tendance à dire « Oh, ça c'est diabolique !» Comme si le diable était plus capable de guérir que Jésus. Ça aussi, on le sait. Donc, le sachant, eh bien, la recommandation de notre maître, de Jésus, c'est soyez prudent. Il faut être prudent. Voilà. Donc, moi, je suis plus prudent avec les chrétiens, entre guillemets, qu'avec un loup que je rencontrerai dans un bois. Franchement, ces gens-là, waouh, j'ai vu comment ils sont. Donc, prudence. Et je vous exhorte à être prudent. Jésus ne disait pas tout et n'importe quoi aux gens. Il disait juste à ses disciples. C'était ce qu'on appelle des initiés. C'était juste ceux qui avaient vraiment complètement donné leur vie. Alors là, il les enseignait, il leur disait tout. Puis il avait un enseignement pour tout le monde. Là, par exemple, ce que je vous donne ce matin, c'est un enseignement pour tout le monde. Mais pour ceux qui sont dans la communauté, il y a des choses plus profondes. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors, nous sommes prudents, nous le sommes, et par prudence, eh bien, nous nous cachons, comme il est arrivé à Jésus de le faire parfois, hein, quand ça chauffait trop, ben, il allait se cacher. Nous savons que, c'est pas parce qu'il avait peur, mais c'était juste de la prudence, il faut être prudent. Voilà, hein, Jésus dit qu'il faut être prudent comme des colombes et rusés comme des serpents. Waouh, colombe, serpent, les deux animaux dans le bestiaire biblique qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre. Mais Jésus dit, vous soyez comme les deux, hein, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Oui, 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 Michel, qu'est-ce que tu dis? Oh, essayez de comprendre. Les gens de ce monde ont peur. Le monde a peur de tout le monde. Et leur peur, se manifeste de deux façons, l'agressivité ou la soumission. L'agressivité et la soumission, ce sont les deux forces, les deux faces, pardon, les deux faces du même problème, le manque de connaissance de Dieu et des choses de l'esprit. À cause de ce manque de connaissance, mon peuple périt. Alors, il devient agressif, ou alors il devient soumis, bêtement. Les soumis, j'ai une bonne soumission, mais il y a une mauvaise soumission. Il y a une sainte colère, mais une mauvaise colère. Les soumis prêchent le renoncement non pas à cause de l'amour, mais à cause de leur incapacité d'arriver au moindre résultat. Alors, comme ils n'arrivent à rien du tout, ils se soumettent à ceux qui y arrivent. Et puis, c'est des suiveurs. C'est pas bon, ça. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est quand même pour tout le monde. C'est pas pour une élite, c'est pour tout disciple accompli. Alors, un chrétien réel disciple de Jésus, il se soumet à son maître, à Jésus, et cette soumission, c'est pas virtuel, elle n'est pas malsaine, elle est bien réelle, et elle se manifeste dans le respect de ceux que Dieu a établis dans son Église. Voilà comment elle se manifeste, cette soumission. On va lire Acte 20, 28, 30. Acte 20, 28, 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, etc., etc., etc. Donc, il a établi des évêques. Vous en connaissez, vous, les évêques? Allez, les chrétiens, vous êtes sur Internet, vous connaissez des évêques? Évêque, ça signifie surveillant. Ça signifie tuteur, ça signifie modérateur. Un évêque, c'est un simple frère qui est établi dans l'Église par le Saint-Esprit, et quiconque croit d'une façon saine est soumis à l'évêque. C'est comme ça. Pourquoi cette soumission? Pour que tout soit en ordre. Parce que l'évêque établi par le Seigneur a l'autorité apostolique dans l'Église locale. Oh, Michel, mais tu emploies des mots catholiques. Non, c'est des mots bibliques. L'autorité apostolique, ça signifie l'autorité d'un envoyé de Dieu. Apôtre signifie envoyé. L'autorité apostolique, c'est l'autorité d'un envoyé de Dieu. Vous comprenez? C'est ainsi que, dans l'Église primitive, Jésus voulait que les évêques, qui étaient donc revêtus de l'autorité apostolique, reçoivent les directives. On trouve ça sept fois dans Apocalypse 2 à 3, on trouve sept fois écrit à l'autorité apostolique ou écrit à l'ange de l'église de machin, écrit à celui que j'ai envoyé à l'église de... Vous comprenez? C'est Dieu au sujet de l'église. Quand il parle, quand il a quelque chose à voir avec l'Église, il ne s'adresse pas aux membres de l'Église, il s'adresse à l'évêque, à celui que Dieu a envoyé. Cet évêque peut être prophète, cet évêque peut être apôtre, pasteur, c'est une personne qui a un ministère qui était reconnu, et c'est comme ça que ça se passe. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est faux. C'est faux. Et quand c'est faux, c'est faux. Le message était donc reçu par l'évêque qui le transmettait aux membres de la communauté, on voit ça donc dans Apocalypse 2 et 3, parce que on n'est pas tout seul, mes frères et sœurs. Tu n'es pas tout seul, tu es membre du corps de Christ et tu as ta place, tout doit être en ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et si mon corps ne marche pas correctement, par exemple si mon pied se met à entendre comme mon oreille, oulala, c'est grave, docteur. Ça serait bizarre quand même, non? Voilà. Chaque membre a un rôle, une fonction dans le corps. Et voilà, c'est ainsi que Dieu nous rassure. C'est pas pour nous embêter qu'il fait ça. C'est pour nous rassurer, vous voyez. Les textes sacrés nous comparent à une armée. Moi, j'ai fait l'armée. Je regrette tellement que maintenant les jeunes ne sont plus obligés de faire l'armée. Ça leur ferait du bien d'aller faire l'armée. Même les filles, ça serait bien qu'elles fassent l'armée. Parce que moi, je me rappelle autrefois, les filles, les femmes qui ont l'âge de mon épouse, elles apprenaient à tenir un ménage, elles apprenaient à l'école, hein, elles apprenaient à coudre, elles apprenaient à faire des repas, elles apprenaient... Alors, rien du tout, vous savez. Ces filles qui sont de l'école, elles ne savent même pas faire cuire un œuf. On a eu dans notre communauté, elle n'est plus là maintenant, mais une fille, elle savait même pas que la purée, c'était des pommes de terre. On lui dit passe-moi les pommes de terre, mais il n'y a pas de pommes de terre sur la table. Pourtant, elle ne savait pas que la purée, c'était fait avec des pommes de terre. Elle, un jour, on lui a demandé de faire du thé, elle ne savait pas faire chauffer de l'eau pour faire du thé. C'est quand même, c'est terrible. Il faut que toute cette jeunesse-là, allez, j'espère que le prochain président, il va remettre ça en ordre, que tout le monde, à l'armée, hop, les hommes, les femmes, puis apprendre la discipline, apprendre la valeur. C'est bon, la discipline, ça rassure, ça fait du bien, la discipline. Si je devais faire voter ce matin ici, je suis sûr que tout le monde voterait qu'il est d'accord avec moi. L'armée, c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose pour aller tuer les gens, mais c'est une bonne chose pour apprendre la discipline. Nuance. Et puis, il faut aussi défendre notre pays. Je m'éloigne un petit peu du truc. Donc, le texte biblique nous compare à une armée. Et les soldats, dans l'armée, ils assument leur engagement. Ils assument leur engagement, même s'ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur demande de faire ceci ou cela. Ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire. Sur un bateau de la marine, hein, la grande marine, l'armée suisse, on a une marine extraordinaire. Eh bien, moi je faisais partie des sanitaires dans l'armée, mais on en a bavé. Hein. On en a bavé. C'est pas la planque, hein, là, les sanitaires en Suisse, parce que c'était dans la montagne que j'étais, et dans la montagne, c'est non seulement dangereux, mais c'est très pénible. Enfin, j'en ai vraiment bavé. Mais heureusement, je n'étais pas dans la marine. Mais elle n'existe pas, la marine suisse. Enfin, du moins, je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Il n'y a pas de mer. Mais dans la marine, par exemple, dans un bateau, vous avez le capitaine. Il est en haut. Il voit qu'il y a un iceberg. Et il dit « À bâbord, toutes !» Eh bien, les gens qui sont en bas dans les machineries, ils disent pas « Mais pourquoi il dit ça ?»« Mais est-ce que c'est bien de faire ça ?» C'était pas prévu au programme. Est-ce que c'est bien biblique? Non, ils obéissent et puis c'est tout. Sinon, on va droit dans l'iceberg. Je vois que vous suivez, c'est bien. Et c'est comme ça. Dans l'armée du roi des rois, tous les soldats obéissent par amour pour le roi des rois et pour l'Église. C'est normal, obéir. Voilà un mot que le monde déteste. Mais, on n'est pas du monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On va lire Hébreux 13, 7. J'ai plein de versets à vous lire, mais je ne crois pas qu'on va les lire tous, parce que sinon on va passer notre journée à lire la Bible. Lisons donc Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est-à-dire que si vous refusez d'obéir, eh ben vous allez payer le prix. C'est vous qui allez payer le prix. Bon, la personne qui a été établie par Dieu pour diriger l'Église va être malheureuse. Moi, j'étais malheureux quand il y a eu les dissidents. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, pouf. Mais eux qui sont toujours dans la dissidence, ils vont payer le prix. Et ça ne leur est d'aucun avantage. D'aucun avantage. Aucun. Aucun. C'est la règle. Tant que nous sommes dans ce monde, c'est la règle. Pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans son Église, qui est la communauté, Eh bien, si nous acceptons pas la règle, eh bien, il y aura un prix à payer. Alors, de toute façon, il y a un prix à payer. Quel prix est-ce que vous voulez payer? Est-ce que vous voulez payer le prix pour développer une véritable spiritualité, ou est-ce que vous voulez payer le prix pour avoir méprisé l'ordre établi par Dieu? Parce que c'est vrai que nous sommes tous frères. Personne ne doit se faire appeler maître. Est-ce que je vous ai déjà demandé de m'appeler maître? Non. Mais est-ce que vous me reconnaissez comme évêque? Oui, donc vous devez être soumis. Même si je ne suis qu'un frère, c'est-à-dire bête comme vous, excusez-moi, je suis aussi bête que vous, je suis aussi faible que vous, je suis pas un super saint infaillible, ainsi le Seigneur, tu ne changeras pas une virgule de ce que je dis, parce que je suis infaillible. Vous ne pourriez pas me croire si je vous faisais ce coup-là. Ben, il y en a, ils aiment ça. Hein? Ils aiment ça. Alors, quel prix vous voulez payer? Le prix pour développer une véritable vie spirituelle, c'est un prix fort. Hein? Ou alors, le prix à payer pour avoir méprisé l'ordre établi parce que simplement vous trouvez que l'évêque, il n'est pas exactement comme vous aimeriez qu'il soit, parce que il aime bien James Dean, ou bien il aime bien Sylvie Vartan, ou bien, je sais pas, il a une drôle de moustache comme Osborne, ou bien une perruque, ou je sais pas quoi. Vous savez, parfois les gens se donnent toutes sortes d'excuses, et ces excuses leur paraissent bonnes, et des fois elles sont bonnes, hein, pour ne pas se soumettre. Mais vous voyez, les bonnes raisons, mes frères et sœurs, c'est comme les nuages qu'on n'a pas ici dans le sud-ouest. Vous vous rappelez les nuages, comment c'était? Les nuages, vous vous rappelez un peu, vous vous rappelez ce que c'est les nuages? Non, vous vous rappelez déjà plus, vous, hein? Les nuages, je vous rappelle comment c'est les nuages. Ça se dissipe, les nuages. Les nuages, ça se dissipe, le soleil, lui, il demeure, il est toujours là. Et les nuages, ben, ça se dissipe, les problèmes, les petites imperfections de votre évêque, mais ça va passer, tout ça, c'est pas grave, ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre part, c'est-à-dire que vous soyez soumis. Et s'il a tort, c'est pas vous qui serez puni, c'est lui qui sera puni. Puis c'est tout. C'est dans l'ordre établi, c'est comme ça. Parce que Jésus, le soleil, lui, ne change pas, ne passe pas. Les nuages, oui. Le problème, il se dissipe toujours. Il suffit juste d'attendre un petit peu. Notre vie, c'est une course vers le ciel. C'est ça notre but. C'est ça notre vraie mission sur la terre. Hein, on lisait vendredi soir dans notre étude au sujet de l'histoire de l'église des Mormons que leur prophète leur avait dit un jour soyez fermes et rappelez-vous toujours de votre but. Deux points, le salut. C'est ça qui est important. Travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Quand on commence à courir vers le ciel au début de notre vie chrétienne, moi je me rappelle, j'avais 18 ans, eh bien au début de notre vie de disciple, on est ensemble avec les frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est formidable, on partage un enthousiasme fraternel, c'est, puis surtout chez les pentecôtistes, hein, c'est très vivant, c'est très chaleureux, et puis la joie initiale, elle commence à faire place à des défis, mais c'est voulu de Dieu, c'est bien. Mais quel défi? Ben, la fatigue. La fatigue due un peu à la monotonie, parce que c'est vrai que, ben, même en tant que disciple, ben, les choses se répètent quand même. Le matin, il faut se lever, il faut déjeuner, il faut se laver, il faut aller au boulot, gna 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 gna. Il faut aller à l'église, ça devient monotone. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit, on commence à avoir des doutes sur nos propres capacités, parce que on voit des gens tellement brillants, avec des dons tellement extraordinaires, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai encore comme chemin à parcourir? Mais c'est dans toutes les écoles, ça, qu'il y a du chemin à parcourir. Celui qui commence à l'école enfantine, ben, il n'est pas encore en université, il faudra du temps pour ça, hein, et la persévérance, et puis, il faudra pas qu'il lâche ses études. Là, j'ai appris encore dernièrement, il y en a un qui a lâché ses études, puis, ben, l'embêtait, il voulait gagner toute sa vie. Ben, il va gagner le SMIC, c'est bien. S'il avait continué ses études, il aurait gagné un peu plus, c'est tout. Il aurait dû attendre un peu, mais bon, mes conseils, c'est de la gagnotte. ça ne sert à rien ce que l'évêque dit. Enfin, de toute façon, je ne fais pas partie de ma communauté, donc ça va. Et puis, on constate que certains, petit à petit, ont abandonné la course au fond de leur cœur. Ce n'est pas qu'ils ne courent plus, mais c'est qu'au fond de leur cœur, ils ont abandonné la course. Ils ont abandonné la course. Ils courent toujours, mais seulement parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter au milieu de la route. Tout. Mais ils courent, alors, ils sont là en train de courroter. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Alors, en général, ils forment un groupe, un peloton, comme on dit dans le milieu cycliste, hein, et puis ils se mettent à pédaler tout près de la voiture de secours. Hein, ouais. Tout près de la voiture de la routine. Ils sont là autour, et puis voilà, ils causent ensemble. Ça va? Ah, pas tant bien, non. J'ai mon furoncle qui me fait souffrir. Oh là là, puis c'est long, puis alors, tout, mais tout s'est pas enlevé, mais qu'est-ce qu'ils pensent, les organisateurs? Pourquoi ils nous ont fait passer par là? Oh, c'est pénible. Mais pourquoi je fais ce sport? Mais c'est pas possible. Mais enfin, bon, faut bien continuer. L'important, c'est de participer. Oui, t'as raison. Bon, vous auriez pas un petit peu d'eau, là? Vous pourriez pas mettre un peu des vitamines ou je sais pas quelque chose dedans pour m'aider un peu? Non, non. Enfin, ils accomplissent cette course. Ils accomplissent leurs obligations, vous comprenez? Mais il n'y a plus beaucoup d'amour dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle donc de la vie chrétienne. Hein? Et puis, il y a ceux qui croient et qui continuent et qui donc obligatoirement prennent de la distance. Et plus on prend de la distance, plus on est seul, en quelque sorte, parce qu'il y a très peu qui veulent se distancier. Ils préfèrent rester dans le peloton. Il y a très peu qui osent aller de l'avant. Frères et sœurs, ce qu'il vous faut, c'est ne pas renoncer. Il ne faut pas renoncer. Le vrai disciple soumis aux règles du grand maître de Jésus, il a besoin de quatre forces invisibles. Ça sera le titre de la prédication d'aujourd'hui. Les quatre forces invisibles. La première force, c'est l'amour. La deuxième force, c'est la mort. La troisième force, c'est le pouvoir. Et la quatrième force, c'est le temps. Première force, l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et il vous aime. Alors aimez-le. Aimez les siens, aimez ce qui lui appartient, aimez son église, aimez son ordre, aimez l'évêque, aimez ceux qui sont faibles, aimez ceux qui sont faibles mais qui ne veulent pas renoncer. Soutenez-les avec amour, aimez ceux qui ont un caractère difficile, aimez. L'amour, c'est une force comme ça. La deuxième force, c'est la force de la mort. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai passé juste à côté, ça fait un an là, que j'ai appris que j'avais ce cancer, et j'ai frôlé la mort, je regardais les photos encore hier, waouh, quelle tronche j'avais, hein, on regardait ça avec Stéphane sur internet, 18 kilos, là, j'étais vraiment affaibli, c'était terrible. Frères et sœurs, parce que si vous n'avez pas conscience d'être mortel, vous n'appréciez pas la vie. Mais je vous promets, c'est vrai. Si vous n'êtes pas conscience qu'un jour vous allez mourir, vous n'appréciez pas la vie. Le bon goût du pain, les bonnes odeurs, de la fondue, hein? L'onctuosité d'un bon cognac, des Charentes, hein, Stéphane? Tu nous offriras tout à l'heure? Oui. Oui, gentil. Vous voyez, toutes ces bonnes choses de la vie, des choses toutes simples, mais si vous n'avez pas... Il y a une chanson de Sylvie qui dit la première cigarette au retour de la mort. C'est-à-dire, elle chante qu'est-ce que c'est le bonheur, et alors elle énumère, elle dit c'est un curé penché sur son bréviaire, c'est ceci, c'est cela, et c'est la première cigarette au retour de la mort. Une personne qui a eu un accident de voiture, et puis qui est à côté de sa voiture, tout tremblant, et puis qui s'en est sorti, quelques égratignures, et puis qui fume sa cigarette en disant... Oh mon Dieu, que c'est bon de vivre. Alors je vous dis pas qu'il faut fumer une cigarette, mais je trouve que ça donne un bon exemple dans le sens de des petites choses toutes bêtes de la vie qui on passe à côté et puis on se réjouit pas, on n'est pas content. Il faut être content. Celui qui a pas conscience qu'il est mortel, il peut pas apprécier ces petites choses de la vie. Je suis pas en train de faire l'apologie de la cigarette, hein. Je ne fume pas moi-même et personne ne fume dans la communauté. Dans l'autre, là où on était avant, il y en avait qui fumaient, on savait. On ne peut pas cacher longtemps. Mais nous, on ne fume pas. La troisième force invisible, c'est le pouvoir. Parce que, vous savez, il est nécessaire de lutter pour se développer. Il est nécessaire aussi de lutter pour se développer spirituellement. Et quand on se développe spirituellement pour grandir, alors on acquiert des pouvoirs. Par exemple, le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de connaître l'avenir, le pouvoir... Il y a 9 dons surnaturels qui sont des authentiques pouvoirs. Qui sont... Mais lutter, il faut faire attention en luttant et... Faites attention de ne pas laisser vous illusionner par le pouvoir qui vient de votre développement. Parce que les pouvoirs, ça vaut rien. Ah bon, Michel, ça vaut rien de prophétiser, ça vaut rien de guérir les malades. Si, mais c'est limité, parce que quand vous allez quitter ce corps mortel, quand on va être débarrassé de cette parenthèse dans laquelle nous sommes là sur cette terre, eh bien, ça ne servira à plus rien de guérir les malades, parce qu'il n'y aura plus de malades. Ça ne sert à rien de prophétiser, ça ne sert à rien. Donc ça vaut rien, il ne faut pas s'attacher à ça, il ne faut pas s'enorgueillir de ça. Il ne faut pas. Seul le pouvoir de l'amour demeurera éternellement, mais reste, c'est rien. Vous voyez ? La quatrième force invisible, c'est le temps. Parce que bien que notre esprit est éternel, et bien que notre âme a reçu l'éternité, celui qui croit en moi reçoit l'éternité, le pouvoir, n'est-ce pas, l'éternité. Mais pour le moment, on est prisonnier dans le temps et on doit vivre maintenant. Pour le moment, on est prisonnier du temps et de ses opportunités, mais aussi de ses limites. Donc on est prisonnier encore de... Il faut s'en rendre compte. Le temps, c'est quelque chose, c'est une force qu'on doit utiliser vraiment bien. C'est-à-dire que nous devons valoriser chaque instant, donner de la valeur à chaque instant. Pas perdre notre temps pour des futilités, pour des idioties ou des choses qui servent à rien. Eh bien, mais quand même, il faut se reposer quand c'est nécessaire. Et c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes dans le sud-ouest, là. Mais se reposer avec les armes à la main et un œil ouvert quand même, hein, pour pas s'endormir en disant, bon, ben voilà. Non. Se reposer ne signifie pas arrêter de marcher vers la lumière. Se reposer, ça signifie juste ne pas se laisser incommoder par les angoisses. Ne pas se laisser incommoder par les moments d'angoisse. C'est ça, se reposer. D'accord ? Utilisez votre pouvoir spirituel pour chasser les moments d'angoisse. C'est obligé que ça arrive. Ah ! Ça vous vient comme ça. Mais utilisez votre force spirituelle. Alors, ces 4 forces invisibles... Malheureusement, elles échappent à notre contrôle. Je me rappelle toujours de cette sœur un peu benette qui m'avait dit « Mais t'as donné une prophétie pour tous les membres de la communauté, mais t'as rien dit pour ma mère. Je veux que tu donnes une prophétie à ma mère. » C'est hors de mon contrôle, je ne peux pas donner une prophétie sur commande comme ça. Tout ça, c'est toutes ces choses dont je viens de vous parler, la vie, la mort, le pouvoir, le temps, ça échappe à notre contrôle. Il faut avoir cette humilité, il faut accepter ce fait, il faut respecter la vie, la mort, le temps, le pouvoir, il faut respecter tout ça. Et il faut laisser ces 4 forces nous enseigner. Mais c'est pas sous notre contrôle. Commencez déjà par être vous-même avec ces 4 forces, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Manifestez le plus possible ce miracle que vous êtes de par votre nouvelle naissance. Le fait que vous êtes né de nouveau, c'est déjà un miracle. Eh bien, manifestez le plus possible cette nouvelle personne que vous êtes en Jésus-Christ. Et soyez ce que vous êtes, mais ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Regardez là, on est en hiver. On est en hiver, non ? Oui, on est en hiver. Hein ?
Pas encore.
Pas encore. Bah, là, on se dirait au printemps, tellement qu'il fait beau. Les fleurs qui vont sortir au printemps, eh bien, elles ne feront que de fleurir. Le mieux qu'elles pourront, puis c'est tout. Non ? Ben oui. Les algues. Moi, les seules algues que j'ai eues, c'est au magasin, sur l'étalage, là où il y a les poissons, ils mettent des algues pour faire, je sais pas pourquoi, faire joli, j'en sais rien. Mais les algues, il y en a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers qui sont là-haut dans la mer, elles doivent des explications à personne. Elles vivent, puis voilà, c'est tout. Non ? C'est tout simple. ne sois pas comme la grenouille de la fable qui voulait être un taureau, je crois, non, c'est ça, un bœuf. Vous ne serez jamais T.L. Osborne. Vous serez toujours que vous-même, c'est tout. Vous pouvez progresser, mais vous ne serez jamais T.L. Osborne. Il n'y en a eu qu'un, c'est tout. Vous pouvez progresser, mais vous ne serez jamais lui. Vous serez peut-être mieux que lui, mais vous ne serez jamais lui. Ne vous faites pas d'illusions. Il faut d'abord être prêt à payer le prix que lui, il a payé pour pouvoir être ce qu'il est, ce qu'il était. Qu'est-ce que vous penseriez d'une tomate qui voudrait être un melon ? C'est ridicule, non ? Bien sûr que c'est ridicule. Alors moi, je m'étonne toujours que tant de gens se préoccupent de vouloir être ce qu'ils ne sont pas. Ça m'étonne. Mais quel plaisir ont-ils de se ridiculiser aux yeux des autres ? Parce qu'ils sont ridicules aux yeux des autres. Je suis bishop. Je suis apôtre. Je suis prophète. Je suis ceci, je suis cela. Vanité, c'est des vanités. Je vais te le dire, si tu es prophète, les gens vont s'en rendre compte et te recevront comme un prophète parce qu'ils auront vu que tu es prophète. Si tu as été établi pour faire des miracles, les gens le verront et te chercheront pour ça. Tu n'as pas besoin de dire rien du tout, c'est la vanité. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Tu n'as pas à prouver que tout va toujours bien. Tu n'as pas à te préoccuper de ce que les autres pensent. Sois toi-même. Et puis progresse en utilisant les quatre forces invisibles. L'amour, la mort, le pouvoir et le temps. On devrait faire un logo de ça. Hein ? Parce que quand nous quitterons notre enveloppe charnelle, mes frères et sœurs, Dieu ne nous demandera pas « Comment as-tu vécu ?» Il nous demandera « Comment as-tu aimé ?» Ah, ça c'est différent. Alors est-ce que tu aimes ta vie ? Et puis ta vie, tu l'aimes comment ? Au point de la sacrifier par amour, par respect pour les autres ? Ou est-ce que tu l'aimes égoïstement ? Ou est-ce que tu l'aimes pas du tout ? Dieu te demandera comment as-tu aimé. Aimer, c'est pas seulement aimer les autres, c'est d'abord s'aimer soi-même. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu peux pas aimer les autres plus que tu t'aimes toi-même. Les gens qui me détestent ne doivent pas s'aimer beaucoup. Vous comprenez ? Ils me le diront jamais, mais moi je sais. Parce que c'est une loi. C'est une loi, c'est comme la loi de la gravité, c'est comme ça. C'est la vie, c'est avec Jésus, c'est magnifique parce qu'il nous instruit. Il nous instruit. T'es pas rien du tout, parce que Jésus n'est pas mort pour des rien du tout. Il est mort pour toi, pas pour rien du tout. Il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Donc, tu es aimable. Alors, aime-toi un peu aussi quand même, non ? C'est la moindre des choses. Apprends à t'aimer. Je suis moche. Oh, on s'en fout, on a l'habitude de te voir. Je suis bête, je suis gauche, je suis ceci. Mais arrête de dire tout le temps ça. Fais des progrès, petit à petit, puis c'est bon, puis réjouis-toi. Réjouis-toi. Aime-toi. Tu me diras, oh, je suis si loin du but que Dieu m'a fixé, je suis si imparfait. Mais c'est génial ça! C'est génial! Ça veut dire que tu as encore des choses positives à faire. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé au bout de ta route en train de te dire, bon ben je suis parfait, je commence à m'embêter. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais plus quoi faire. C'était dans Pierrot le fou ça. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Pauvre nouille. Si tu te trouves pas à la hauteur, c'est génial. Ça veut dire que tu as la possibilité de faire des progrès pour devenir ce que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire la lumière du monde. C'est pas rien. Le sel de la terre. un témoin de son amour, mais c'est fantastique. Tu vois comment Dieu te fait confiance, comment Dieu a foi en toi. Alors, commence à aussi avoir un peu foi en toi, plutôt que de regarder les mauvais côtés. Moi aussi, j'ai des mauvais côtés. Ben alors, on en a tous. Puis alors, qu'est-ce que ça peut faire? On progresse. Et puis, même, ne serait-ce qu'essayer de progresser. La nature entière soupire après la manifestation de ce que tu es, un fils, une fille de Dieu. Alors, utilise le temps qui te reste à achever cette construction. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Utilise ces quatre forces invisibles pour ça. Utilise-les pour ça. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et il te récompensera pour le bien que tu feras. Et il le fera. Le temps, c'est ton allié, si tu veux. L'amour, c'est ton moteur. La mort, c'est ton pense-bête. Ton rappelle-tout. Et le pouvoir, c'est ce que tu peux. Et qu'est-ce que tu peux? Tout est possible à celui qui croit. C'est immense. Il n'y a pas de plus beau message. Il n'y a rien de plus positif que ça. Comment tu peux rester encore grincheux? Tu peux le faire si tu veux le faire. Parce que si tu le veux, Dieu va te donner le pouvoir de le faire. Même miraculeusement s'il faut. Vous croyez ça? Moi, je crois ça. C'est pourquoi il m'arrive tant de bonnes choses. Mais il m'arrive autant de bonnes choses que de mauvaises. C'est le prix à payer. C'est ça le truc. Il faut le comprendre. Mais on est en tout cela plus que vainqueur en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous donne une grande assurance et en qui nous pouvons nous reposer, nous cacher, nous fortifier. Amen, amen, amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les aider à comprendre toutes ces choses et à les traduire en action, en parole, en manifestation pour la plus grande gloire de ton nom, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.